sommes-nous ? Toujours bon, avant d'aller plus loin, de savoir où est le point de départ, d'où nous venons, où se situe la scène, quel est le contexte de la scène que nous venons d'entendre. Nous sommes à Jéricho, moins 400 mètres d'altitude, mais surtout nous sommes dans une ville où, quand les Hébreux sont arrivés en terre promise, une ville qui était remplie de péchés et une ville qui s'est convertie. Vous savez, vous connaissez l'histoire des trompettes de Jéricho, où la ville a fini par se convertir et donc où la grâce a fini par abonder et a surabondé dans Jéricho. Donc tout de suite, un petit peu comme dans un bon article de journal, vous savez, comme dans un chapeau, eh bien nous avons l'essentiel. Il va s'agir du péché et il va s'agir de personnes qui ont été converties, qui ont reçu toute la grâce qui leur était nécessaire. Ensuite, un aveugle mais avec un manteau. Qu'est-ce que symbolise Bartimée, qu'on appelle Bartimée mais qui s'appelle le fils de l'honoré, le fils de celui qui a fait sûrement quelque chose de bien puisqu'il a été honoré, vous voyez. Sa descendance est belle. Qu'est-ce que Bartimée, comme aveugle, symbolise? Il est celui ou celle qui ne peut pas suivre Jésus par lui-même. Jésus est là, c'est sûr, il l'entend, il veut profiter de l'occasion, mais il ne peut pas le faire. Un petit peu comme nous, comme par exemple nous serions à la messe, nous savons que c'est un moment incroyable puisque Jésus va venir sur l'autel, Jésus va même venir en nous si nous communions, et nous voyons bien, nous sentons bien qu'il y a un espace énorme entre la réalité qui va arriver sur l'autel et ce que chacun d'entre nous, nous vivons. Les Anglais appellent ça un gap, un espace. Mais qui va le combler, cet espace? Et comment je vais faire pour profiter pleinement de ce qui m'est promis? Qu'est-ce que fait Bartimée, ou qu'est-ce qui arrive à Bartimée pour qu'à la fin de l'histoire, il se trouve sauvé? Il se trouve en train de suivre Jésus. À la fin de l'histoire, la promesse est accomplie. Un petit peu comme dans la première lecture où on entend l'histoire de l'exil et où on voit que le peuple a été libéré conformément aux promesses qui lui avaient été faites. Première chose, Bartimée crie. Bartimée crie, et il crie même deux fois. Et dans le texte, on lit qu'il crie encore plus fort. Ça ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Dieu entend le moindre de nos paroles quand nous lui adressons la parole, quand nous lui parlons de tout notre cœur. Dieu entend tout ce que nous disons, c'est clair et net. Mais parfois, l'homme dit les choses sans les penser vraiment. Vous voyez, on dit les choses, mais au fond, c'est pas tellement si on va être exaucé, on ne croit pas vraiment, il y a une espèce de lourdeur dans notre demande, où on manque d'esprit d'enfance peut-être, on manque d'esprit de confiance, on manque de... Du coup, c'est pas que Dieu attend qu'on hurle, mais c'est sûr et certain que quand on hurle, quand on crie de tout notre cœur, quand on met nos tripes dans la demande, Dieu est particulièrement attentif. Et Dieu met en place quelque chose qui va nous sauver. Réaction de Dieu, réaction de Jésus. Que fait Jésus quand l'homme crie? Il l'appelle. Et vous voyez, ça c'est étonnant. Parce que souvent, quand on crie à Dieu, on s'attend à ce que Dieu nous donne ce qu'on demande. Seigneur, je voudrais un boulot. Et on est étonné parce que le lendemain matin, personne ne nous appelle au téléphone. Sauf que vous avez remarqué, quand l'homme crie, Dieu ne lui donne pas forcément tout de suite ce qu'il veut. Parce qu'il va aller beaucoup plus loin, évidemment, Dieu. Il va faire du bien profondément à cet homme, encore plus que lui donner un boulot, si vous voulez. Mais ce que fait Jésus, c'est qu'il l'appelle. C'est à ça qu'il faut s'attendre, chers frères et sœurs. C'est pas que Dieu d'abord, providentiellement, exauce tous nos désirs. Ce à quoi il faut que nous nous attendions quand nous crions vers Dieu et que nous n'arrivons pas à suivre Jésus, c'est qu'il nous appelle. Viens, lève-toi. Il ne nous appelle pas d'ailleurs en direct, c'est très étonnant. Beaucoup d'entre vous viennent nous voir, nous les prêtres, ou les diacres, ou les sœurs, et nous disent « Mais alors, voilà, je suis dans telle situation, je voudrais savoir si j'ai raison d'accepter ce boulot en Italie. » Ah oui, moi, je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas eu un fax de Dieu ou un SMS de Dieu qui me dit « Si jamais elle vient te dire ça, tu peux lui dire oui de ma part. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Qu'est-ce que fait Jésus? Vous avez remarqué, c'est très intéressant, il passe par son Église. Et l'Église, ça ne veut pas dire les curés, hein. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés. Il passe par le peuple, il leur dit, Jésus dit aux apôtres, aux disciples, « Allez dire à l'aveugle que... » Alors pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Parce qu'il ne veut pas seulement éduquer l'aveugle, il veut aussi éduquer les membres de l'Église, il veut aussi éduquer les disciples. Parce que l'attitude des disciples, ça a été de passer outre les appels de l'aveugle. Donc quand Jésus dit aux disciples « Allez lui dire de venir », il ne fait pas seulement qu'éduquer l'aveugle, il éduque les disciples. Qui du coup vont transmettre quoi? Quelle est la vérité que les disciples vont transmettre tout de suite? Ça c'est bon pour nous, hein, tout de suite, chers frères et sœurs. Eh bien tout de suite les disciples, sans qu'on leur dise précisément ce qu'ils devaient faire, disent « Confiance, il t'appelle ». Ça c'est très étonnant. Jésus leur dit « Allez me le chercher » et les disciples disent « Confiance ». Comme si, au moment où Jésus demandait quelque chose à quelqu'un, la personne recevait bien plus que l'ordre de mission, vous voyez. Puisqu'il dit « Confiance, mon Dieu ». Je te crachais dessus il y a 5 minutes, mais maintenant tu peux avoir confiance et tu peux te rapprocher de Jésus. Vous voyez ? Quand le Seigneur nous envoie, le Seigneur nous envoie pour qu'on appelle, eh bien il nous donne bien plus qu'un ordre de mission. Alors ensuite, il y a l'appel. L'appel à Bartimée. On reçoit des appels. On a reçu des appels à se marier, des appels à rentrer dans la vie religieuse, des appels à devenir prêtre. Juste une toute petite chose, je ne vais pas m'étendre sur la question de l'appel à la vocation, mais il vient toujours de l'extérieur, l'appel. Il vient toujours de l'extérieur, toujours. Et c'est toujours quelque chose qui se passe à l'extérieur qui fait que je vais me sentir appelé. Vous voyez, quand je m'occupais du discernement pour les séminaristes, il y avait en gros 2 catégories de séminaristes, mais alors en très gros, hein. Il y avait de ceux qui arrivaient et qui me disaient « Moi, mon père, depuis que je suis né, je veux être prêtre. » À celui-là, je disais souvent « Mais écoute, continue tes études, puis tu reviendras me voir plus tard. » Parce que le centre, c'est toi. Et dans un appel, le centre n'est jamais la personne. Toujours le cœur de Jésus, vous voyez. En revanche, une autre séminariste qui arrivait et qui disait « Écoutez, mon père, je suis vraiment confus, voilà, je m'apprêtais à me marier, je finissais mes études, en entrant dans cette église ou en écoutant un prêche ou en lisant tel livre, j'ai senti quelque chose de nouveau en moi et quelque chose qui persiste. Et il faut absolument que je vous en parle. » Ça, c'est autre chose. Et ça peut mûrir, vous voyez. Et ça, c'est un authentique appel. Mais des appels comme ça, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement des questions de la vocation. Nous en entendons, vous en entendez sans cesse. Vous vous sentez bien qu'il y a quelque chose vers lequel le Seigneur vous appelle. À travers une remarque d'une personne, à travers un événement, vous vous dites « Ah mais oui, mais ça, il y a longtemps que j'y pense. En fait, c'est en moi. » Vous voyez, on reconnaît les choses plus que on ne les veut au départ. Donc le Bartimée est appelé et Jésus là en face de lui. Mais tout de suite, Jésus fait une chose qui est très importante, en tous les cas très importante à entendre, parce que Bartimée ne pourra jamais suivre Jésus pleinement s'il ne répond pas à la question que Jésus veut lui poser. Elle est étonnante, cette question, parce qu'elle est très très ouverte. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Franchement, chers frères et sœurs, vous avez un aveugle qui est sur le bord du chemin, qui est devant vous, qui entre-temps a abandonné son manteau, c'est-à-dire sa sécurité. Parce qu'en Terre Sainte, il fait froid la nuit. Donc et puis il a couru vers vous. Pour un aveugle, c'est pas mal quand même. Il faut beaucoup de confiance. Il est devant vous et vous lui demandez « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Ben, c'est qu'en fait, Jésus accorde à l'aveugle bien plus que ce qui pourrait aller de soi. Vous voyez, c'est comme ça que Jésus nous écoute, c'est comme ça que Jésus nous aime. Quand il nous pose la question « Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il le pense vraiment. Il n'est pas en train de se dire, évidemment, il va me demander de lui rendre la vue. En fait, ce que Jésus fait, et qui est très important, c'est qu'il nous met en liberté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Tu es libre. Tu peux choisir la vie, tu peux choisir la mort, choisis. C'est toi qui choisis. Vous savez, chers frères et sœurs, en matière de discernement, je peux vous dire une chose, c'est que bien souvent, le Seigneur nous laisse choisir. Mon Père, dites-moi si je dois faire ceci ou si je dois faire cela. Mais si on n'a pas de réponse, si les choses ne sont pas claires, si on n'a pas la lumière, c'est très souvent que le Seigneur nous fait confiance. Réfléchis, fais ce qui est raisonnable. Fais ce qui est bon. T'es assez grand, mon vieux. Ou ma vieille. Les choses sont plus simples que ce qu'on imagine, chers frères et sœurs. Souvent beaucoup plus simples. Alors, qu'est-ce qui répond l'aveugle ? Que je vois. Qu'est-ce que ça veut dire, symboliquement, que je vois ? Mais vous vous souvenez au début, pourquoi est-ce que l'aveugle, Bartimée, pose sa question et se met à crier ? C'est parce qu'il voit Jésus passer, qu'il sent que Jésus passe. Il y a un événement qui pourrait le sauver, mais il n'arrive pas à le saisir, cet événement. Il sait que ça doit être Jésus, le sauveur, celui qui guérit, qui est en train de passer là, à 2 mètres. Il va louper le truc. Alors il hurle. C'est ça le point de départ, souvenez-vous. Que je vois pour te suivre, bien sûr. Que je vois pour être libéré. La vision, qu'est-ce que nous donne une vision ? La vision, elle nous donne la perspective. Pas seulement l'illusion de la profondeur, mais la perspective, c'est-à-dire tout ce qu'il y a devant nous et tout le chemin qu'il y a à parcourir et toutes les beautés qu'il y a sur ce chemin et toute la création qui nous est donnée, c'est ça qu'elle donne la vision. Et qu'est-ce que Jésus est en train de faire ? Il est en train d'aller de Jéricho à Jérusalem, la ville de la paix. Et qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem, Jésus ? Il va mourir et ressusciter. Alors l'aveugle demande la vue. Pourquoi faire ? Pour suivre Jésus. Où ? À Jérusalem. C'est-à-dire à la croix. C'est-à-dire à la résurrection. Donc en fait, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire, toi qui es aveugle et qui as du mal à me suivre à cause de ton péché, crie, hurle, dis simplement cette phrase que nous avons chantée au début de la messe, « Aie pitié de moi, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Vous savez que dans la tradition orientale, quand on dit cette phrase, on est un saint au moment où on la dit. Déjà, ça te prie. Jésus, fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheur. Alors Jésus nous appelle, évidemment, il le fait tout le temps. Déjà, Si vous lisez le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 7, c'est une phrase qui est tellement importante qu'on l'a gravée dans le mur de l'Église. Qu'est-ce que dit Dieu au livre de l'Exode? Vous pourrez le lire, hein, sans cesse. J'ai vu, j'ai entendu, je sais, je suis descendu. C'est le livre de l'Exode, c'est notre écriture. Jésus sait votre vie. Donc si tu as du mal à suivre Jésus, si tu as du mal à monter à Jérusalem, si tu as du mal à traverser la souffrance, si tu as du mal avec la croix, le Seigneur t'appelle et va te donner le moyen de le suivre. Il va te donner la capacité à le suivre. Il va te donner sa force. Il va te donner sa paix. C'est lui qui l'a promis, c'est son Père qui l'a promis, particulièrement en suscitant l'Écriture, et particulièrement à travers cette page de l'Écriture que nous avons lue tout à l'heure. Ainsi parle le Seigneur, poussé des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du nord, que je les rassemble des confins de la terre, parmi eux tout ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée, c'est une grande assemblée qui revient. Voilà que le Seigneur nous sauve. Finalement, qu'est-ce que nous avons à faire, nous? Qu'est-ce qui nous revient dans cette histoire? Prenez un crayon à la maison et revenez, et relisez la page d'Évangile. Et qu'est-ce que vous avez à faire? Juste une chose, finalement, qu'on peut tous faire. Et on le fait depuis notre enfance. Crier.